Et c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux. Bonjour Xavier.
Bonjour Jacques Meunier. Merci
Xavier Martinet.
Merci de nous avoir instruits. En tout cas, rien de nouveau, mais du nouveau du côté de la francophonie, en tout cas, avec un désistement sous la pression et une élection jouée d'avance. Ce sont les deux événements majeurs du sommet de la francophonie ouvert hier à Erevan. Manière de réinventer la francophonie, comme le souhaite Emmanuel Macron. On en parle avec vous, Thierry Cornillet. Bonjour.
Oui, bonjour.
Député européen, Alliance des démocrates et libéraux, fondateur de l'Association internationale des régions francophones et co-auteur de ce rapport en début d'année sur le rôle de la France dans la francophonie dynamique. Francophonie très investie dans les discours d'Emmanuel Macron depuis un an. Il veut contrer le déclassement et passer de la cinquième à la troisième langue mondiale d'ici 2030. Alors avec 26 chefs d'État, non une cinquantaine comme je disais hier, le sommet d'Erevan offre une nouvelle tribune pour ce projet, mais il est aussi une épreuve d'unité pour l'OIF, l'organisation elle-même, 274 millions de francophones, 84 pays, elle a multiplié précisément les adhésions litigieuses, en témoignent cette année les batailles âpres sur fond de respect des libertés et droits humains autour de la candidature de l'Arabie Saoudite qui vient de se retirer sous la pression et celle pour la nouvelle secrétaire générale donnée d'avance, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, symbole donc d'une politique de décentrement comme le voulait Emmanuel Macron ou parce que l'épicentre de la langue française est sans doute dans le bassin du Congo, c'est ce qu'il disait hier, ou encore parce que la France tente un rapprochement avec une des premières puissances d'Afrique au prix de nouvelles divisions de l'organisation. Alors réinventer la francophonie, mais d'abord apaiser l'OIF, Thierry Cornillet, quel meilleur endroit en tout cas que l'Arménie, le pays d'Aznavour, 200 000 francophones, 3 millions d'habitants en plein Caucase, c'est un peu le symbole d'une francophonie consensuelle, on pourrait dire.
Oui, c'est un territoire extrêmement emblématique pour deux raisons. C'est qu'ils sont, comme vous l'avez remarqué, ils sont à la fois francophones et francophiles. Donc c'est important de cumuler les deux parce que dans le reste du monde, il peut y avoir des pays francophones, d'autres qui sont francophiles mais qui pratiquent moins la langue. L'Arménie a l'avantage de coupler les deux. Ça me paraît donc le lieu idéal pour parler de francophonie, oui. Que font nos chefs d'État.
Et coïncidence un peu malheureuse, mais Emmanuel Macron était retenu hier à Paris. Il n'a pas pu assister à cette rencontre avec des entrepreneurs et Nicole Pachignan. Qu'est-ce qu'on peut attendre du resserrement des liens économiques avec ce pays, encore une fois, de 3 millions d'habitants?
Oh ben écoutez, c'est tout à fait intéressant d'avoir, je dirais, un pied dans le Caucase, aux frontières russes. C'est pas inintéressant avec des gens qui se considèrent comme étant aussi des occidentaux, ouais. En ayant naturellement leur propre culture, ouais, et leur réseau en France.
Et puis l'Arménie numérique un peu qui avait été évoquée aussi.
Oui, bien sûr. Ben, c'est un cumul de tout. C'est un clavier, la capacité d'influence. Donc ça en fait partie.
Et alors maintenant, sur la grande question du déclassement français dans les institutions, c'était un peu un des aspects de votre rapport, justement. Il y a eu ces chiffres de l'organisation assez importants. On était passé de 36% de documents pour l'Union en anglais en 98 à 3,6% tout récemment, donc 10 fois décimé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ce déclassement qui paraît un peu inéluctable tout de même.
Honnêtement, je pense qu'il faut être lucide. Moi, je vois dans l'Union européenne, j'ai longtemps, ça fait quasiment 12 ans que je suis député européen, la pratique de l'anglais maintenant, mais c'est pas l'anglais pour lire la langue de Shakespeare, l'anglais en tant qu'outil, comme vous utilisez une clé à molette pour faire de la mécanique. Donc l'anglais, c'est la langue que tout le monde a appris, et moi j'avoue, quand je veux parler à un collègue finlandais ou estonien, eh ben on pratique l'anglais parce qu'il l'a appris, que je l'ai appris aussi. Alors certains parlent la bonne idée de parler français, auquel cas nous parlons français, mais les trois langues officielles, c'est l'anglais, l'allemand et le français. Mais la réalité, c'est que la langue pratique, c'est l'anglais. Il ne nous viendrait pas à l'idée d'employer des assistants parlementaires qui ne parleraient pas couramment anglais parce qu'ils travaillent en anglais avec les assistants de nos autres collègues parlementaires. Mais c'est pas pour autant un déclassement de la France et de la culture française. C'est que voilà, ben, c'est l'outil, ce qu'il en est. Ben, si on n'avait pas vendu la Louisiane et qu'on n'avait pas lâché le Québec, peut-être que les États-Unis parleraient français et auquel cas ce serait une situation inversée.
Et la Louisiane, 700 000 francophones. Juste encore une fois, l'Union européenne, il y avait Marie-Béatrice Leveau du CESE justement qui avait affirmé que parmi les planètes alignées en faveur de la francophonie, il pourrait y avoir le Brexit. Est-ce que ça vous semble, c'est une idée qui a circulé, une hypothèse juste?
Non, honnêtement, le Brexit ne change rien à la pratique de l'anglais au sein des institutions. Parce que c'est, comme je vous le dis, c'est pas l'anglais civilisationnel qu'on parle, c'est l'anglais outil, l'anglais moyen de se parler.
Et même si le Royaume-Uni se retire, les documents de travail vont pas pour autant revenir en français.
On les a en traduction, monsieur. Mmh. On les a après quelques temps en traduction dans toutes les langues. Je vous rappelle que la caractéristique de l'Union européenne, c'est 24 langues. Il y a 24 systèmes de traduction lorsqu'on est en hémicycle, lorsqu'on est en commission. Mmh. Donc c'est ça la réalité de l'Europe.
Et dernière chose sur, les facteurs d'affaiblissement. On a beaucoup parlé aussi, ça c'était le Sénat qui a fait un rapport tout récemment de l'affaiblissement dans certains domaines de l'engagement français, notamment la baisse de 12% depuis 2012 des crédits de l'AEFE, l'Agence française de l'enseignement à l'étranger. Oui. Là-dessus, c'est un facteur très important selon vous, justement un déficit de formation?
Ah ben, ce qui est tout à fait essentiel, vous avez raison de le souligner, c'est pour que le français doit être continué à être enseigné et doit être continué à être enseigné dans les pays francophones. Mais soyons francs, pour que quelqu'un veuille apprendre le français dans une langue où il n'en a plus besoin pour se parler entre eux, ce qui est dans le cas, par exemple, des pays du Maghreb, ben la réalité, c'est qu'il faut que le français lui soit utile pour sa vie personnelle et particulièrement sa vie économique. Donc c'est à nous aussi à donner de bonnes raisons d'apprendre le français aux étudiants, d'accueillir des étudiants en France, de pouvoir se créer des réseaux, de garantir par leur présence en France la persistance des normes à la fois juridiques de droit continental pour qu'ils ne rentrent pas dans le système de la soft law anglo-saxonne, des normes techniques aussi pour pouvoir avoir des marchés conjoints avec des pays partenaires de l'Afrique francophone notamment, pour aller ensemble sur des marchés qui ne seraient pas francophones.
Et alors justement, on va en venir à l'Afrique, mais c'est pourquoi Emmanuel Macron parler de cette langue lieu de reconquête. Justement, un bon exemple et un cas d'école, là où il y avait des bons réseaux francophones, on pourrait dire, même si un nombre de locuteurs réels encore assez faible, c'était l'Arabie Saoudite qui était sous la pression pour les raisons évidentes de droits de l'homme. Elle dit qu'elle reporte sa candidature. Qu'est-ce que vous pensez à la fois de cette adhésion et puis de ce report? Ça marque une ligne rouge?
Objectivement, le rôle de l'OIF, c'est pas d'avoir des multiplications d'adhérents, c'est d'avoir des gens qui en partagent le pratique d'une langue et des valeurs communes. Donc je pense très honnêtement que l'Arabie Saoudite aurait eu quelques soucis d'adhésion, et c'est une sage décision, mais ça n'empêche pas d'avoir des relations diplomatiques complètement apaisées avec l'Arabie Saoudite sans avoir besoin de la faire rentrer dans la francophonie.
Et de ce point de vue-là, il doit y avoir d'autres adhésions en question aujourd'hui, vendredi, donc l'Irlande, Malte, Gambie, Louisiane. Là-dessus, on peut dire que c'est des adhésions déjà jouées, ou puisqu'on sait que c'est des choix assez consensuels là pour le coup?
Oui, peut-être plus consensuel. Ben, il est évident que Louisiane ou même en Irlande, on rencontre plus de francophones qu'en Arabie Saoudite.
Et alors, dans les adhésions moins consensuelles, enfin dans les adhésions, pardon, dans les choix à faire moins consensuels, sont ceux de la nouvelle secrétaire générale qui doit être décidée aujourd'hui à huis clos, je crois. Alors, au départ, c'était un combat, une longue bataille entre Michaëlle Jean, la Canadienne, et Louise Mouchikiwabo, la Rwandaise, qui a été un peu endossée par tout le monde, notamment l'Union africaine et la France. Là encore, une bataille assez âpre pour des raisons de gestion, on pourrait dire, des libertés publiques. Là, c'est le Rwanda qui est visé. Est-ce que c'est un mauvais choix de vouloir pousser cette candidature?
Non, honnêtement, ça ne me paraît pas être le choix. Le choix, et on regarde, c'est une alternance entre l'Afrique et ce qui n'est pas l'Afrique. On a eu Abnou Diouf pendant longtemps. On a eu Michaëlle Jean, qui est de fait et totalement anglo-saxonne, si je puis dire. Il n'est pas illogique que ça revienne à quelqu'un de l'Afrique, la candidate Mouchikiwabo et la candidate de l'Afrique. Je rappelle en plus qu'il y a un effet un peu symbolique. Madame Mouchikiwabo a eu toute sa famille qui a été massacrée pendant le génocide. Donc il y a aussi cet aspect que voulu, je pense, par le président Macron de mettre en œuvre quelqu'un du Rwanda, compte tenu des critiques parfois justifiées qu'on a pu avoir vis-à-vis de notre pays.
Et je le disais, est-ce que c'est pas, par ailleurs, sur un plan plus politique, pousser une candidature au risque de certaines divisions? C'était un chef d'État africain qui disait, c'est parlant à RFI tout récemment, sans être cité, j'aime bien Justin Trudeau, mais je n'ai pas envie de me mettre à dos Paul Kagame. C'est assez éloquent.
Oui, effectivement, mais franchement, vous connaissez des candidatures qui ont l'unanimité. Moi, personnellement, je n'en ai jamais rencontré dans ma carrière, tant qu'il en est de même pour la ministre rwandaise des Affaires étrangères.
Oui. Et alors, concernant le Rwanda, c'est aussi, on pourrait dire, un rétablissement du français, parce qu'il y avait une francophonie quand même, il y a un certain temps assez vivace au Rwanda. En quoi c'est un signal aussi, peut-être, de priorité mise sur l'Afrique, et en quel sens? Parce que c'est aussi l'Afrique entrepreneuriale, ce Rwanda.
Bien sûr, c'est l'Afrique entrepreneuriale, et c'est d'ailleurs tout le sens de la francophonie. La francophonie, c'est pas une nostalgie. La francophonie, c'est une occasion pour notre pays, mais pas seulement, d'avoir une capacité d'influence. La francophonie, c'est un monde économique. Il peut y avoir des collaborations entre pays francophones, entre entreprises francophones, pour d'abord faire des marchés entre nous, mais surtout la conquête de marchés extérieurs. Lorsqu'on parle la même langue, on a les mêmes normes, c'est quand même plus facile que lorsqu'on a des langues différentes.
Et de ce point de vue-là, alors, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées, notamment 16 qui étaient proposées par le CESE en début d'année. Il y a eu également le 20 mars des annonces faites par Emmanuel Macron. Une multiplication des missions ces dernières années de l'OIF. Est-ce que, un peu à la manière, on pourrait dire, des opérations de maintien de la paix de l'ONU, il n'y a pas un syndrome arbre de Noël de l'organisation internationale, comme l'on dit beaucoup, multiplication des missions, dispersion des buts?
Oui, honnêtement, je pense qu'il faudrait que l'OIF se recentre sur un certain nombre de missions principales, dont l'enseignement du français, dont l'enseignement, le portage de valeurs qui nous sont communes et qui sont dans les raisons à l'origine de la création de l'OIF, qui était avant une agence et qui a, d'ailleurs, je rappelle, a été créée par d'autres que par des Français, puisque c'est des présidents africains qui l'ont créée.
Et en effet, merci Thierry Cornillet.